Bonjour chers auditeurs du Guardian, nous nous retrouvons ce mardi 14 novembre pour le deuxième épisode de notre podcast réservé à notre dossier spécial sur le nouveau pacte migration et asile en préparation depuis septembre 2020 par la Commission européenne. La semaine dernière, nous interrogeons Google afin d'en connaître un peu plus sur le rôle que la multinationale entendait jouer via l'IA dans la nouvelle politique de gestion des frontières entre États membres. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Adrien Katt, représentant du CESE, donc le Conseil économique et social européen. Bonjour Monsieur Katt.
Bonjour.
À la suite de la publication par la Commission européenne le 6 novembre dernier de sa proposition de refonte de la directive dite « retour » de 2008, le CESE a rendu son avis il y a 2 jours. Vous en reprenez certains articles qui occultent, selon vous, certains droits fondamentaux. Pour rappel, le CESE, institué par le traité de Rome de 1957, représente les groupes sociaux de l'Union européenne. Donc ce n'est pas un organe institutionnel, mais consultatif, qui peut s'exprimer soit de son propre chef, en s'autosaisissant, soit sur demande du Conseil, du Parlement ou de la Commission. Son point de vue est représentatif des citoyens et des groupes sociaux, à savoir les employeurs, les salariés et les autres activités. Dans les premières observations que vous faites du texte de loi en question, vous regrettez l'absence d'une législation commune entre les États membres en matière de gestion des migrations qui supplanterait les mesures normatives nationales. Selon vous, cette absence d'harmonisation peut-elle entraîner des risques de dérive sécuritaire de certains États membres qui refuseraient, par exemple, l'accueil de migrants sur leur territoire sans pouvoir toutefois y être contraints ?
Tout à fait. Donc l'avis du CESE relatif à la refonte de la directive retour qui a été rendue publique il y a quelques jours exprime une position claire. À ce jour, l'absence de politique européenne commune pour la gestion des flux migratoires vers l'Europe pose de nombreux problèmes. En effet, le manque d'harmonie des politiques nationales expose les ressortissants des pays tiers à un risque de différence de traitement. Et au-delà de ça, le discours actuel criminalise les migrations, tandis que l'Europe et les citoyens européens pourraient porter un discours positif à l'égard d'un phénomène social qui apporte de nombreux bénéfices, notamment à l'économie européenne, ce que la société civile européenne parvient tout à fait à reconnaître. En outre, sa dynamique est très bien perçue lorsque l'on perçoit la criminalisation dont sont victimes les acteurs humanitaires, alors même qu'ils répondent à un impératif juridique.
Merci. Selon les chiffres publiés dans le rapport conjoint des ONG Sea-Watch et SOS Méditerranée ce dimanche, ce sont 1800 personnes qui ont péri en tentant de traverser la Méditerranée en 2023. Pourtant, le terme « sauvetage en mer » n'est nullement mentionné dans cette nouvelle proposition de la Commission. Vous, qui dialoguez avec celles et ceux qui sont sur le terrain, vous qui avez déjà alerté il y a plusieurs semaines dans un communiqué de presse sur la nécessité de réellement prendre en compte les acteurs de la société civile et plus particulièrement les ONG dans le processus décisionnel. Que pensez-vous de l'article 16 qui dispose « Il y a lieu d'arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques applicables aux décisions liées au retour afin d'assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées » Craignez-vous qu'il ne comporte un certain vide juridique ? Le fait que cet article paraisse quand même assez flou, assez vague, ne nécessite-t-il pas qu'il soit précisé par la Commission ?
Alors, pour l'heure, la Commission a réalisé une consultation sur la révision de la directive retour, ce qui signifie que ce test ne devrait pas nécessairement incorporer la notion de sauvetage en mer. Toutefois, il est absolument nécessaire qu'une politique commune en matière de migration soit construite au niveau européen pour répondre aux enjeux actuels, qui sont avant tout humanitaires et juridiques. Nous sommes obligés de porter assistance à ces personnes en vertu du droit international. C'est là, comme pour toutes les normes produites au niveau européen, que la société civile doit être consultée. C'est ainsi qu'une décision se construit pour être acceptée, mais aussi pour que soient relevés les réels enjeux et impacts qu'une prise de décision aura. Or, il n'y a que les acteurs sur le terrain qui peuvent prendre la mesure de ces impacts et exprimer des recommandations qui passent par la voie du CESE et des parties prenantes.
Concernant les critères établis pour définir ce qui constitue un risque de fuite dans l'article 6, vous estimez que les critères du logement et de la justification de ressources économiques revêtent tous deux une portée excessive et injuste. Pouvez-vous développer ce point ?
Alors bien sûr, par nature, les ressortissants des pays tiers à leur arrivée sur le territoire européen sont privés de ressources économiques. C'est une observation qui est évidente. Il n'est donc pas pertinent et juste de juger que ce manque de ressources économiques, dont découle souvent l'absence d'une résidence établie, justifie un risque de fuite de la personne concernée. Encore une fois, la vision portée sur l'immigration dans cette proposition de texte de loi criminaliser les ressortissants des pays tiers, et ça n'est, selon l'avis du CESE, pas la bonne voie.
D'accord, très bien. Dans votre rapport, vous souhaitez notamment amender l'article 7 en ce que vous le trouvez trop excessif concernant les conditions de renvoi d'un migrant vers son pays d'origine. Le CESE insiste sur la nécessité de privilégier la reconduite forcée vers un autre État membre plutôt que l'expulsion de l'Union. Alors, bien que la Commission affirme qu'une décision de retour devrait accompagner toute décision mettant fin au séjour irrégulier d'un ressortissant de pays tiers, ce que vous saluez, pour garantir un traitement accéléré de la procédure, vous prônez plutôt l'étude au cas par cas et la plus humaine possible. Pensez-vous que les États membres ont suffisamment de temps en fait, pour traiter chaque dossier en profondeur, vous qui êtes au contact des acteurs de terrain? On a l'impression que le but de la Commission, notamment en voulant agir massivement maintenant grâce à l'IA, est un peu dans une sorte de course de vitesse.
Alors, le CESE ne peut pas amender les textes proposés. En tant qu'organe consultatif, nous fournissons des recommandations au Parlement, au Conseil ainsi qu'à la Commission. Nous rendons un avis en vertu de l'article 304 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CESE interroge effectivement la faisabilité des délais proposés par la Commission, dont se sont inquiétés les acteurs humanitaires. Et par ailleurs, l'utilisation de l'IA semble plutôt pertinente dans le cadre de la stratégie numérique de l'Union. Cela ne veut pas dire que le cadre d'utilisation doit laisser à désirer. Il faut poser des conditions claires à cette utilisation pour s'assurer que la mise en place de frontières qui seraient intelligentes respecte les droits des individus et protège les ressortissants des pays tiers avec les mêmes outils que nos ressortissants en matière de protection de données. On ne peut pas laisser les données s'échapper en dehors du territoire de l'Union. L'utilisation de l'IA pour la gestion des flux migratoires doit être réfléchie dès aujourd'hui, car ce sera un élément indispensable demain, dans tous les domaines de la vie. Cela ne veut pas dire qu'il faille l'utiliser de demain, sans considération pour les droits des personnes. Et en prenant en compte ces considérations, nous devons attendre l'acte délégué relatif à l'utilisation de l'IA, car les propositions de la Commission restent encore floues en la matière à ce jour.
L'article 8 de la nouvelle proposition de directive retour évoque la nécessité de valoriser les accords de réadmission entre l'Union et les pays tiers. Alors cet article peut sembler assez flou en ce qu'il ne développe pas tout ce qui est relatif à l'aide au développement. Sans accusation aucune, je pense à des pays comme la Turquie ou la Libye. Pensez-vous qu'il existe un risque de corruption, en fait, lié à cette enveloppe que l'Union verse? Existe-t-il des enquêtes de suivi de l'argent versé à ces pays dans la façon dont il est géré et utilisé concrètement par le pays tiers? Ou sont-ils totalement libres de leur gestion?
Alors sur cette question, la position du CESE est qu'il est nécessaire que d'une part, les accords de réadmission ne conditionnent pas l'aide au développement. Il ne faut pas tout mélanger. Comme son nom l'indique, l'aide au développement participe à une redistribution de ressources économiques vers des pays qui en ont besoin pour leur développement. Il s'agit d'une action humanitaire qui ne doit pas être conditionnée par des considérations politiques. D'autre part, le meilleur moyen de permettre des réadmissions durables reste selon nous la consultation des sociétés civiles étrangères avec qui l'Europe doit entretenir un dialogue. C'est ainsi que nous veillerons au bon emploi de l'argent versé à ces pays et ainsi que nous favoriserons des réintégrations durables et justes pour les ressortissants des pays tiers. Les acteurs de la société civile, ont prouvé leur efficacité dans de nombreux domaines. Faisons leur confiance.
Dans le cadre d'un retour vers le pays d'origine, qu'il soit volontaire ou non, il est important de coopérer avec les sociétés civiles des pays tiers afin de favoriser une réintégration durable. Le CESE a-t-il un rôle à jouer dans le dialogue avec les sociétés civiles des pays tiers ?
Bien sûr, le CESE doit dialoguer avec les sociétés civiles étrangères et plus largement, l'Europe doit dialoguer avec les acteurs non gouvernementaux des pays étrangers. Comment fonder des décisions justes spécialement en matière de migration si on ne peut pas en prendre en compte les causes à l'origine de ces migrations ?
Alors, on connaît les conditions de vie plus que déplorables, voire allant à l'encontre de la dignité humaine des migrants et des demandeurs d'asile dans les centres de rétention dans lesquels ils sont parqués, parfois pendant plusieurs mois. Vous estimez que 4 mois d'attente pour pouvoir repartir, c'est trop long et qu'il est possible d'effectuer les démarches nécessaires à l'application d'une mesure d'éloignement vers un État tiers plus vite. Alors, 2 questions en une. Quels moyens pouvons-nous mobiliser pour les traiter donc plus vite d'une part ? ces demandes? Et d'autre part, que proposez-vous afin de permettre d'améliorer les conditions de rétention dans ces centres, afin qu'ils ne soient pas, pour vous citer, comparables à une prison?
Alors, lorsqu'on parle d'une mesure aussi extrême que la privation de liberté, 4 mois, c'est trop long. Et ce, encore plus lorsque cette privation de liberté peut s'effectuer dans un établissement pénitentiaire, comme le souhaite la Commission. Or, cette utilisation des établissements pénitentiaires pour les ressortissants des pays tiers n'est pas légale. La justice européenne a déjà tranché. La jurisprudence de la Cour de justice européenne existe. La privation de liberté dans le cadre de la rétention administrative, ce n'est pas, et ça ne doit pas devenir, une mesure punitive pour les ressortissants des pays tiers. Les ONG européennes ont par ailleurs une expertise dans le domaine de gestion d'immigration, car ils aident à l'intégration des migrants. La première étape, c'est donc de limiter le risque de fuite, non pas par la rétention, mais par l'intégration. Et ça, les acteurs humanitaires peuvent le faire, mais pas sans moyens. Et cela suppose pour les États membres de les aider. Ensuite, les conditions de rétention doivent répondre à une liste de critères définis juridiquement pour s'assurer de cette exigence. Lorsque l'on regarde à la proposition de la Commission, il apparaît que cette proposition contrevienne totalement à ces exigences à l'heure actuelle.
Merci beaucoup, Monsieur Katz, sur ces explications qui nous ont permis d'en apprendre plus sur les négociations en cours au sein de la bulle bruxelloise.
Merci beaucoup.